Seulement et qui nous vient directement des États-Unis. Elle nous présentera un panorama technique. Nous serons également très heureux de compter parmi nous. Il a accepté la semaine dernière, j'ai eu la possibilité de parler avec Madame Karine Persette. J'espère que je prononce bien son nom. Elle est de l'ICPC. Comité de politique en matière informatique de l'OCDE. Et elle est la rédactrice en chef du dernier rapport de l'OCDE. Je ne sais pas d'ailleurs si nous avons des copies papier de ce rapport. Oui. Il y a différents rapports épais imprimés juste à l'entrée de la salle qui seront placés. À l'entrée de la salle, y compris celui de l'OCDE. Madame intervient, mais sans microphone. Donc, il nous est impossible de l'interpréter. Je l'ai envoyé à la presse hier. Donc, j'espère qu'il sera disponible. Alors, ça, c'est la première partie. Deuxième partie. J'interviendrai. Mon gouvernement m'a demandé de vous faire part des dernières découvertes du groupe d'études. Je ne suis pas membre du groupe d'études, mais du groupe de suivi en matière de transition. Alors, est-ce que mon collègue est là? Je sais qu'il avait Monsieur Adil. Normalement, il devra être parmi nous. Partie numéro 3, donc après 60 minutes. Donc 20 premières minutes, intervention de Ray. Ensuite, nous aurons deux ou trois orateurs. Puis nous aurons un débat pour l'avenir. Que faire? Que faire pour veiller à ce que les intérêts des utilisateurs soient protégés? Nous pensions que Franck de la Chapelle pourrait être avec nous. À l'heure actuelle, il s'occupe du ministre d'État afin qu'il nous fasse part des points de vue de ce ministère. Monsieur Alain Durand est parmi nous. Nous en sommes très heureux. Est-ce que Alain n'est pas là? Il est de Comcast, mais basé à Paris. Il s'occupe de gouvernance Internet et architecture IPv6 et cette étude était inclue dans le dernier rapport de l'OCDE. Nous écouterons leur opinion et nous aurons aussi également Mark McFarlane de BT Design. Monsieur Christian Jacoura. Jacques Connais. Directeur de programme stratégique. Ils nous feront part de leurs perspectives en matière de transition. Les autres orateurs et les participants pourront participer à ce débat interactif. Sans d'autres délais, je donne la parole à Ray. Si Ray est prêt à prendre la parole. Avant cela, est-ce que quelqu'un souhaite avoir un éclaircissement ou y a-t-il des propositions? Enfin, allez-vous utiliser des diapositives? N'oubliez pas de brancher votre micro, monsieur, afin de pouvoir être traduit.
While we wait, in the ICANN Paris meeting, there are two.
Alors, vous savez qu'il y a d'autres ateliers sur l'IPv6. Il y en a un pour les entreprises au déjeuner, et il y en a un également pour les registres et les bureaux d'enregistrement. C'est jeudi, si je ne m'abuse.
Good morning. My name is Ray Pauls.
Bonjour, je suis Ray Pizac. J'ai quelques diapositives, mais ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir parler de la teneur d'un document que nous avons préparé pour cette présentation et qui vous est distribué à l'heure actuelle. Deuxième aspect, je crois que dans cette discussion, il y a beaucoup de points qui relèvent de la politique générale. Ce n'est pas mon intention et je ne pense pas que l'on puisse ici discuter des tenants et aboutissants des politiques qui sont étudiées ailleurs, car ces questions de politique sont discutées dans d'autres instances. Donc, il s'agit ici d'informer les gens sur cette question. Ceci dit, il y a 4 registres Internet régionaux et tout le monde et chacun de ces forums, des groupements de registres, ont des forums qui permettent au public de participer aux discussions. Je voudrais vous dire que ma présentation est basée sur les grandes lignes de cette politique. Alors, bien entendu, il y a un certain nombre de points qui ont déjà été bien identifiés. Ce que j'ai fait ici, c'est de résumer, en fait, certaines idées, certains éléments spécifiques qui ont directement trait à la question qui nous est posée. Alors, bien entendu, il y a une certaine orientation qui va vous être donnée compte tenu de la nature du sujet. Mais je crois que maintenant, ceci dit, nous pouvons démarrer. La première chose à faire, c'est que vous compreniez que ces adresses correspondent en fait à des numéros qui est le protocole Internet permet d'avoir, d'obtenir un certain nombre de données à partir d'une source en passant par des points intermédiaires qui sont de plus en plus nombreux vers une destination donnée. Ceci est fait grâce à une adresse IP. Et ceci permet d'identifier de façon unique chacun de ces points. Les caractéristiques de ces adresses IP, et dans les discussions que nous aurons, nous reviendrons sur cette question, il ne s'agit pas de produits de base qui ne peuvent pas être vendus, qui ne peuvent pas être commercialisés. Si vous regardez nos rapports 2008, il y a tout un concept qui est défini pour ce qui est de l'attribution des adresses IPv4 ou IPv6. Ceci, l'attribution se fait en fonction de politique, est attribuée à une personne et ceci revient au prestataire de service lorsque ce n'est plus utilisé. Et cette politique est élaborée par des institutions de la communauté d'utilisateurs. Avant, c'était fait par un représentant unique de l'industrie Internet dans le cadre de l'IETF. Et dans ces institutions était discutée la question des adresses IP, le plus connu étant le 25. Donc, pour ce qui est l'attribution au niveau mondial des adresses, telles que je l'ai dit, comment cela est fait? Ceci passe par la hiérarchie que vous voyez sur cette diapositive. En haut apparaît l'ICANN qui, par liana attribue. Et des blocs d'espace d'adressage sont accordés aux 5 RIR en fonction d'une politique mondiale. Les RIR, par le biais de politiques régionales, allouent ces blocs d'adresse IP au FAI, aux fournisseurs d'accès Internet, aux registres régionaux, aux registres nationaux qui ensuite peuvent les attribuer aux fournisseurs d'accès Internet, ou alors ces fournisseurs d'accès peuvent ensuite les attribuer à leurs consommateurs, soit leurs clients, soit leur infrastructure interne. Les RIR identifient les conditions de paiement de ces espaces d'adressage. Il s'agit en général de grandes organisations. Typiquement, ce sont des universités ou des grosses sociétés, ou des institutions gouvernementales et pour certaines activités, le gouvernement lui-même. D'autre part, il peut y avoir des politiques particulière qui permet l'attribution de petits espaces de nommage pour des institutions particulières telles que les serveurs de racine, les points d'échange Internet ou également des services TLD dans certaines régions. Pour le résumer, les tableaux qui apparaissent dans ce document, ici vous voyez les organisations de prestataires de services, vous voyez le champ d'application de leur autorité et quelles sont leurs attributions. Rapidement, c'est un petit peu le mode d'attribution des espaces d'adressage. Et tout ceci répond à une politique élaborée par la communauté d'utilisateurs ou fin d'utilisation. Chaque région a une politique régionale spécifique, mais si vous allez sur le site web, il y a un document général de politique avec les grandes lignes de toutes les politiques et le modus operandi de convergence. Et vous pouvez voir les différents types de politiques, les caractéristiques spécifiques, l'allocation minimum d'espace. Et le modus operandi pour des caractéristiques particulières. Pour ce qui est de la transition d'IPv4 à IPv6, voici ce qui est censé se produire. Donc il va falloir que je me lève et que je parle un peu plus fort. Malheureusement, les interprètes ne pourront pas comprendre ce que dit cette personne puisqu'elle ne parle pas dans un micro. Il n'est pas possible d'entendre l'orateur et nous ne pouvons pas l'interpréter s'il n'utilise pas un microphone.
Thank you.
Merci beaucoup. Cette ligne représente la poule RIR. C'est de 1999-2000 et ici, on est autour de 2010-2011. Il est très important de pouvoir comprendre ce qui est censé se produire ici. Les RIR ont commencé à attribuer des IPv6 en 1999, mais la transition pour l'IPv6 a commencé en 1999 pour ce qui est de la mise en place de réseaux. Ça n'a pas commencé l'année dernière ou l'année prochaine, ça a commencé en 1999. Alors, qu'est-ce qui devait se passer? Au fur et à mesure de la croissance du développement de l'Internet, il fallait le soutien à la fois de l'IPv4 et de l'IPv6. Et à certains moments, le protocole dominant en Internet ne serait plus l'IPv4, mais deviendrait l'IPv6. Et à ce moment-là, cette croissance se ferait grâce à l'espace d'adressage IPv6. Les adresses IPv4 seront toujours utilisées pour des activités nécessaires pour les infrastructures permettant la coexistence des réseaux IPv4 et IPv6 à l'avenir, donc pour assurer cette transition. Il faut bien voir que la cohabitation de l'IPv4 et IPv6 a commencé de fait en 1999. Quand cela va-t-il terminer? Eh bien, nous ne le savons pas, car nous ne savons pas quelle sera la durée de vie des réseaux IPv4 dans un environnement IPv6. Ça dépendra du marché, de ce que veulent faire les gens, entre autres. Mais l'idée initiale, c'est qu'il y aurait toujours des attributions d'espace de nommage IPv4 pour soutenir cette structure Internet. Et cette transition devrait apparaître à un moment donné aux environs de ces dates-là. C'est ce qui était prévu, c'est pas ce qui s'est passé. En fait, c'est pas ce qui s'est passé. Que s'est-il véritablement passé? Eh bien, cette courbe s'est maintenue en l'état et nous pouvons dire que la croissance Internet est restée la même. Mais ce qui ne s'est pas passé, c'est que le déploiement de l'IPv6 ne s'est pas fait au rythme escompté. Alors, dans le document, il y a un certain nombre de facteurs qui ont été identifiés, qui ont fait que ceci ne s'est pas produit, certes. Mais le fait, c'est que nous n'avons pas ce changement que nous escomptions. Donc, nous ne sommes pas au niveau d'un réseau dominé par l'IPv6. Et à l'heure actuelle, il ne s'agit pas d'une période de transition dans laquelle nous sommes entrés, mais une période d'interrègne, une période où il faut gérer cette disparité parce que le pool d'adressage IPv4 est en train de diminuer. Donc, il y a deux choses que nous pouvons faire. Première chose, c'est étendre la vie des adresses IPv4 et de fournisseurs et de poursuivre ainsi ou de consacrer des ressources additionnelles, des ressources socio-économiques pour que cette ligne se déplace à droite et pour arriver à l'intersection de ces deux lignes. Vous avez encore quelques minutes, dit le président, mais vous savez, nous avons commencé en retard également.
So anyway, so the problem is, what do we do?
Alors, qu'allons-nous faire devant cette période afin de garantir la stabilité de l'Internet? Ça, c'est le véritable problème et c'est à partir de là qu'il faut discuter des différents points et paramètres. Alors, des panoramas fin décembre de l'année dernière, si vous regardez, je crois qu'à l'heure actuelle, nous avons 39 Première question, donc les pays ont un potentiel de croissance important et beaucoup de population, ne vont-ils pas connaître une situation déséquilibrée? Ça, c'est la première question qui a été posée par notre président. Et la question, que vont faire les pays en développement au cours de cette période? Alors, il y a un certain nombre de points à prendre en compte. Je crois qu'il est important de voir que nous ne parlons pas uniquement des pays en développement, mais également de secteurs particuliers de ces pays en développement. Les zones rurales risquent dans une position défavorable dans le cadre de ces pays en développement. Alors, les solutions peuvent être différentes pour ces problèmes, mais ces problèmes sont bien réels. Si vous vous reportez au document que je vous ai remis, vous verrez qu'il y a référence et qu'il y a des documents de politique portant sur les infrastructures et ce qu'il faut faire en matière d'infrastructures. D'abord, il faut fournir des espaces d'adressage pour que les infrastructures permettent l'interface entre l'IPv4 et l'IPv6. Et En même temps, il faut des adresses IPv6 disponibles pour les nouveaux entrants dans le business Internet. Mais ces fournisseurs auront besoin, durant un certain temps, de connexions type IPv4. Tel est le problème. Donc, on peut dire qu'il est plus facile et moins cher de commencer avec un réseau IPv4, mais par la suite, à un moment particulier de l'avenir, il va penser à la transition de cet IPv4 que j'ai construit vers un IPv6 afin de soutenir la croissance Internet de ma région. Ceci générera des coûts additionnels en termes de matériel et en termes de financement. Ou alors vaut-il mieux démarrer tout de suite avec un backbone IPv6 et de prévoir une interface beaucoup plus robuste entre le IPv6 que vous construisez et l'IPv4 existant. Donc il y a un choix socio-économique, ceci ne relève pas d'un choix purement technique. Deuxième question que l'on peut se poser. Est-il suffisant de récupérer des blocs d'adresses qui ne sont pas utilisés du fait du retrait d'un certain nombre de prestataires? En fait, il faut bien voir que les efforts et les coûts pour reprendre un agrégat de blocs d'adresses IPv4 pour soutenir la croissance d'Internet ne vaut véritablement pas la peine d'être réalisé. Pourquoi? Quel le danger? C'est que vous accusiez par la suite un certain retard. Deuxièmement, vous pouvez économiser de l'argent et des efforts pour procéder à ce petit change, pour ce changement, pardon, pour soutenir la croissance avec l'IPv4, tout en pensant à la convergence avec l'IPv6. Vous avez 3 minutes de plus. Il y a 4 autres questions que je vais essayer de caser dans ces 3 minutes. Reste-t-il des adresses IPv4 qui vont devenir très chères, qui feront l'objet de spéculations dans ce cadre? Alors, c'est une... un thème de discussion, les politiques de transfert dont nous discutons dans les différentes régions essayent de résoudre cette situation. Ce qui est important, c'est le niveau de réglementation qui sera mis en place. Un certain nombre de personnes disent que les autorités de régulation font correctement le travail, donc les personnes qui mettent en place leurs normes et leurs règlements. Mais vous savez, il n'y a pas d'université qui vous accorde ou qui vous octroie un diplôme de régulateur et les organismes de réglementation des gouvernementaux ont beaucoup de difficultés à rencontrer ces personnes. Donc il faut pouvoir retrouver les ressources pour élaborer donc ces politiques. Vous savez, dans certains pays, il y a tout un processus législatif à mettre en œuvre. Dans d'autres cas, ce sont des organismes institutionnels. Dans d'autres cas, ce sont les registres Internet régionaux qui vont décider de l'utilisation de ces différentes ressources. Donc, cette discussion à caractère commercial sont en fait un essai de répondre aux spéculations éventuelles. Alors, il faut aussi que ces adresses soient utilisables, qu'elles puissent être routées, sinon ceci ne sert à rien. Et l'implication des RIR est important en la matière, car ce n'est que les IRR qui peuvent spécifier l'unicité des adresses par rapport à un utilisateur bien défini. Alors, Quels sont les efforts pour créer ce marché secondaire entre les cinq régions? Je dirais que par le passé, il y a eu des personnes qui ont essayé d'acheter, de vendre, de commercialiser des adresses IP. Vous savez peut-être ce qui s'est passé avec eBay. Parfois, l'on voit sur eBay des gens qui procèdent à cela. Donc, c'est une question de capacité d'utilisation. Lorsque vous avez une adresse, quelle est sa capacité d'utilisation? Est-ce que vous achetez véritablement une adresse utilisable ou vous achetez une adresse qui ne vous sert à rien? Est-ce que les fournisseurs d'accès répondent aux défis de la diminution du pool d'adresses IPv4, je crois? Oui, vous savez, ce sont déjà des personnes qui gèrent des business. Donc, il faut qu'ils sachent où ils se trouvent. Il y a un certain nombre de décisions de ces sociétés qui sont nécessaires. Je pense que de plus en plus, ils sont conscients de la situation dans leur secteur d'activité. Et il appartient donc à la société de prononcer. Le représentant de Comcast vous dira ce qu'ils ont fait. Ils ont déjà pris des décisions et les FAI ont effectivement des décisions stratégiques à prendre en la matière. Et que pouvons-nous faire pour les encourager? Essayez de résumer, j'essaie de résumer aussi rapidement que possible. Ne m'interrompez plus. Alors, que pouvons-nous faire pour les encourager? Alors, je crois que les IR sont en train de faire de leur mieux. Il s'agit des registres Internet régionaux en matière d'élaboration de politiques, mais il s'agit des organismes, des organisations à l'extérieur des RIR. Et je pense que ce que diront les intervenants plus tard est tout à fait important. L'activité des gouvernements est importante. Nous aurons d'ailleurs une présentation de ce que fait le gouvernement japonais en la matière. La mise en place de politiques telles que celle des gouvernements américains est également importante. Toutes les positions prises par l'ICANN sont également très importantes. C'est cela qu'il faut faire pour encourager la mise en œuvre de l'IPv6. Et il y a encore davantage de choses à faire. Il faut que dans la hiérarchie supérieure des sociétés, eh bien, on prenne conscience de cela. Et ceci dit, je vous remercie de votre attention.
Merci, Ray. Désolé de ces interruptions. Petite question, très rapidement. Les documents dont je vous ai parlé sont disponibles au fond de la salle, pour ceux qui sont arrivés en retard. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le faire traduire. Par conséquent, il n'est disponible qu'en anglais, ma langue maternelle. J'imagine que vous avez beaucoup de questions. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de les prendre à présent. C'est pourquoi je vous demanderai de bien vouloir faire preuve de patience et d'attendre la table ronde. Et si les orateurs s'en tiennent à leur temps de parole, il nous restera 20 minutes, donc à la fin de cette séance, pour pouvoir procéder à un échange. Prochain orateur, il s'agit de Leslie Daigle de l'Internet Society. Elle est responsable de la technologie Internet. Elle va vous faire une présentation technique sur la coexistence entre les deux versions. Petit rappel pour ceux d'entre vous qui venez d'arriver, nous avons des documents à votre disposition. Vous pouvez aller en prendre un exemplaire.
Also, if you're still looking for a chair, there are a few chairs over here that are open, and so maybe find your way over to the side of the room.
Micro, madame, s'il vous plaît. Les interprètes ne vous entendent pas.
I'd be happy to give mine back.
Any secondary market, you mean? Yeah, I just got it, so if it doesn't work, I will display. I got it, so shall I do that, or well, you got it? Looks like yes. So you have some 10 minutes dish.
Vous avez 10 minutes.
Sorry for the delay.
Désolé pour ce petit retard. Cette présentation pourrait être beaucoup plus longue qu'elle ne le sera. Je vais donc me consacrer sur les aspects techniques en vous montrant comment ceci peut permettre de veiller aux intérêts des utilisateurs finaux. Vous le savez peut-être, il y a eu un certain nombre d'évolutions techniques récemment liées à l'IPv6. Il y a eu un certain nombre d'ailleurs de manifestations qui ont été organisées avec des groupes de travail. Il y a également une réunion de l'IETF tout récemment. Et Ray vous a parlé également de cette réunion RIR, IPv6. Il s'agit d'obtenir des informations de la part des experts techniques sur l'IPv6 afin de déboucher sur des décisions concrètes. Alors, il y a un certain nombre de thèmes qui se dégagent. Bon, il s'agit de préparer les différentes manifestations, mettre en place des réseaux, et tenir compte donc de l'expérience des utilisateurs. Alors, je saute puisque j'ai moins de temps que je ne le pensais à ma disposition. Alors, si on parle de cette réunion IETF, c'est que l'accent a été mis pratiquement uniquement sur l'IPv6. On n'a pas parlé de la migration d'IPv4, en tous les cas pas sur un plan opérationnel. Donc, il ne s'agit pas tant de refléter le monde actuel que de se projeter dans l'avenir du point de vue technique et technologique. Donc, on ne se place pas là dans l'interrègne, mais il s'agit d'essayer d'avoir à mettre en place un système d'adressage unique. Il y a également la réunion RIR qui a mis l'accent sur ce soutien nécessaire aussi bien pour l'IPv4 et l'IPv6 en assurant dans toute la mesure du possible l'interopérabilité. Dans les deux cas, un certain nombre de caractéristiques intéressantes sont ressorties. Je crois qu'il y a un certain nombre de points dont il faudrait parler aujourd'hui dans le cadre de l'ICANN, à savoir qu'il est difficile de retrouver l'IPv6 dans le cadre des registres GNS. Donc, ça, c'est quelque chose dont il faut tenir compte si on a l'intention de mettre en œuvre, de déployer l'IPv6 dans le cadre, par exemple, de l'entreprise. Il faut également savoir qu'en essayant de faire interagir l'IPv4 et l'IPv6, certaines applications rencontrent des difficultés. Ceci est lié au fait que vous avez des produits de première génération et on manque en fait d'expérience pour pouvoir assurer le caractère opérationnel et l'interactivité, l'interopérationnalité. Alors, ce qui a été particulièrement intéressant cette année, c'est que Google a mis à disposition un site accessible par IPv6, alors que Google était véritablement, je dirais, l'icône de l'IPv4. Bon, on le sait, il y a de moins en moins d'adresses disponibles dans le cadre de l'IPv4. Et il y a un nombre croissant d'appareils et c'est pourquoi on a de plus en plus besoin d'adresses. Alors, on sait que travailler uniquement sur les licences IPv4 ne peut apporter de solution. Alors, il ne s'agit pas simplement d'essayer d'imposer un point de vue technique. C'est un problème général pour Internet et pour sa réussite à long terme. Et les grands acteurs, dont Google, en sont tout à fait conscients. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils disent maintenant au public. Et c'est la manière dont nous allons, in fine, mettre en place un système d'adressage qui continue à être satisfaisant. Alors, vous pouvez ici obtenir davantage d'informations sur ce qu'ils ont fait à cette adresse. J'imagine que cette présentation sera rendue publique et je propose que vous allez consulter le site plutôt que d'essayer de retrouver l'information maintenant. Je vais peut-être d'ailleurs m'en tenir là parce que j'imagine que les autres points seront traités de manière plus approfondie dans le cadre des différentes interventions. En résumé, l'accent aujourd'hui est sur le déploiement de l'IPv6 et au moment auquel ce déploiement interviendra, il est évident qu'il n'y a plus de doute à l'utilisation à venir de l'IPv6. Je vous remercie.
Merci, Leslie. Merci également de nous avoir fait gagner un petit peu de temps. Donc, vous aurez le droit de répondre à quelques questions en plus. Une des premières questions, est-ce que les utilisateurs finaux ont raison de se préoccuper? À l'heure actuelle, ces utilisateurs, qu'il s'agisse d'individus ou d'entreprises, doivent être conscients de la situation. Une entreprise doit se rendre compte qu'il va falloir s'adapter à l'IPv6 également sur le plan interne. Intervention en micro, malheureusement. La semaine dernière, j'ai participé à une manifestation avec un grand FAI américain. Il se trouve que nous avons partagé le même avion, même si malheureusement nous n'étions pas dans la même classe. Bon, néanmoins, nous avons pu échanger et la question a été, bon, mais quand est-ce que j'aurai mon IPv6? Donc voilà, pour les utilisateurs finaux. Donc je crois qu'il faut qu'ils soient informés, il faut qu'ils soient sensibilisés, il faut qu'ils connaissent la disponibilité des logiciels compatibles IPv6. Comme nous l'avons vu, il y a encore des bugs, donc il faut encore travailler sur l'aspect développement et déploiement. Petite question technique, est-ce que je peux avoir le câble? Vous posez une question. Nous avons 20 secondes pour prendre une question. Avec micro, s'il vous plaît. Question sur les utilisateurs finaux que malheureusement les interprètes n'entendent pas.
The question is, and the
alors, responsabilité des fournisseurs et revendeurs. La question continue à être posée sans micro.
Right. Question also centering the CPEs for the end users is very hard.
Il est difficile de tenir les CP pour les utilisateurs finaux. Je suis d'accord, effectivement. Il est difficile de dire dès aujourd'hui, ben voilà, je vais obtenir une adresse IPv6 auprès de mon FAI et à partir de maintenant, je travaillerai avec le format IPv6. On peut apporter une réponse de ce type dès aujourd'hui, mais je crois qu'il y a une véritable volonté, un véritable souhait. Et il faut justement qu'il y ait cette demande de la part des utilisateurs, de la clientèle. C'est ainsi que les choses bougeront.
après, puis nous passerons la parole à Karine. Je voudrais expliciter ce qu'on entend par utilisateurs finaux. Peut-être qu'un grand nombre d'entre vous avaient l'image de quelqu'un chez lui avec son portable sur les genoux. Il peut s'agir de fournisseurs d'informations, de prestataires de services. Il peut s'agir également de consommateurs d'informations et de services. Donc, les entités qui fournissent des serveurs de mail ou des services publics sont considérés comme des utilisateurs finaux. Donc, il ne s'agit pas uniquement de consommateurs purs, d'individus. Quant aux fournisseurs, il faut que ceux-ci puissent mettre à disposition des services compatibles IPv6 le plus rapidement possible. Je souhaiterais à présent vous présenter l'orateur suivant. Il s'agit de Karine Persset de l'OCDE. L'OCDE a publié un rapport très intéressant au mois de mai. Vous avez d'ailleurs des exemplaires du dit rapport à votre disposition dans cette salle. Merci, Izumi. Merci de m'avoir invité à cet atelier afin de pouvoir parler de cette migration entre l'IPv4 et l'IPv6. Ce dont nous parlons ici, c'est véritablement l'avenir de l'Internet et de la possibilité de relier, de connecter des milliards d'utilisateurs finaux à Internet, un grand nombre d'entre eux étant nouveaux. Comme on vous l'a dit, je travaille pour l'OCDE. Il s'agit d'une organisation intergouvernementale qui regroupe une trentaine de pays, 30 pays exactement. La plupart de ces pays viennent ici pour coopérer sur des questions transnationales et pour pouvoir procéder à des études, à des enquêtes communes. Donc, nous avons travaillé sur le volet économique de la gestion de l'IPv4 et du déploiement de l'IPv6. Ce rapport a été publié un an. L'objectif était de susciter une certaine sensibilisation sur la nécessité de gérer l'IPv4 aujourd'hui tout en déployant l'IPv6. Ceci s'adressait au gouvernement et aux premiers utilisateurs de l'IPv6. Ceci doit être placé dans le contexte d'une réunion ministérielle sur l'avenir de l'économie numérique. Cette réunion s'est tenue la semaine dernière en Corée du Sud. Je sais d'ailleurs que certains d'entre vous étaient présents. Je reconnais quelques visages à la salle. Alors, pourquoi cette question de l'adresse IPv4 est si importante sur un plan politique et pourquoi ceci concerne également les gouvernements? Tout d'abord, comme toute autre organisation qui dépend de d'Internet, les gouvernements sont concernés par le fait que d'ici 2010-2011, on risque de ne plus avoir d'adresse dans le cadre de l'IPv4. Il va donc falloir passer à l'IPv6. Les gouvernements, tout comme le secteur privé, a besoin de continuer à développer les services qu'ils proposent au public. Deuxièmement, au-delà des institutions publiques, il est nécessaire de tenir compte du développement de nouveaux services, de nouveaux utilisateurs. Ceci permettra d'assurer la croissance et l'innovation sur Internet. Pour en revenir au gouvernement, ils sont intéressés par les conditions cadres dans lesquelles ces évolutions interviendront. Il est clair que les économies qui passeront à l'IPv6 en premier auront un avantage vis-à-vis de la concurrence. Ils pourront mettre en place des services qui tiendront compte des fonctionnalités de l'IPv6 et du nombre accru d'adresses. Et ensuite, le problème des nouveaux entrants qui risquent de ne pas pouvoir obtenir d'adresse dans le cadre de l'IPv4. Ray en a parlé dans son introduction. À partir du moment où nous n'aurons plus d'espace adresse IPv4, les nouveaux entrants devront quand même pouvoir obtenir ces adresses pour pouvoir communiquer avec la communauté IPv4. À l'OCDE, nous sommes très préoccupés par ces questions de concurrence, sans oublier les questions de sécurité, de protection des consommateurs. partir du moment où nous avons une migration IPv4 IPv6 sans qu'un suivi ne soit assuré sur l'allocation, sur l'attribution des adresses. Alors, ce suivi se fait aujourd'hui dans le cadre de nouveaux espaces adresses, mais par contre, il n'y a pas de suivi sur les anciennes adresses qui pourraient être réattribuées. Le rapport de l'OCDE est un peu long. Il comprend trois recommandations à l'adresse des gouvernements. Le rôle du gouvernement n'est pas un rôle régulateur ou réglementaire. Nous estimons qu'il s'agit pour les gouvernements de sensibiliser, d'avoir un rôle d'éducateur dans le secteur public. Il faut également sensibiliser les entreprises qui doivent en faire une priorité. Et puis, il y a un véritable défi dans cette période transitoire, c'est l'interopérabilité entre l'IPv4 et l'IPv6. Et les gouvernements ont là un rôle essentiel à jouer pour s'assurer à ce que la communication puisse se faire entre les deux standards. Il s'agit également d'éviter les goulets d'étranglement et je crois que le rapport japonais par le groupe MIC sur cette transition contient justement des pistes intéressantes. On y aborde les questions pertinentes concernant les différentes parties prenantes. Deuxième rôle pour les gouvernements. Il s'agit d'adopter l'IPv6 en leur sein dans le cadre de la prestation de services publics. Il s'agit également d'accroître la demande pour l'IPv6. Jusqu'à maintenant, cette demande étant limitée. C'est le moins qu'on puisse dire. Troisièmement, il faut qu'il y ait une coopération internationale, intergouvernementale. Il faut que ces gouvernements contribuent au suivi du déploiement de l'IPv6. Exemple de coopération internationale, c'est tout récent, c'est la date de la semaine dernière. Une réunion ministérielle de l'OCDR s'est tenue, comme je vous le disais, à Séoul la semaine dernière. Les 45 gouvernements présents et l'UE ont publié une déclaration ministérielle, une déclaration politique, et il y a une section sur l'IPv6. On y dit, nous déclarons que pour contribuer au développement de l'économie sur Internet, nous encourageons l'adoption de nouveaux protocoles Internet, notamment IPv6. Nous souhaitons que celui-ci soit adopté rapidement par les gouvernements et que, ainsi que des secteurs importants de l'espace adresse de l'IPv4, car le nombre d'adresses est en diminution importante. Autre exemple récent de coopération internationale concerne la stratégie et le plan d'action de la Commission européenne. Il s'agit là d'un plan extrêmement ambitieux, concret. 25 cibles de pénétration d'ici 2010. Je pense que Bertrand Lachapelle va y revenir tout à l'heure. Dernier point important dont je souhaiterais parler. Le suivi, les statistiques sont absolument essentielles. C'est ce que nous pensons et nous ne sommes pas les seuls. En effet, c'est important pour pouvoir décider ou prendre des décisions politiques, qu'il s'agisse de politique générale ou technique. Une pénétration à hauteur de 25% de l'IPv6 à l'horizon 2010, là, l'objectif fixé par la Commission européenne est important, mais il faut pouvoir procéder à ces mesures pour voir si les objectifs sont respectés. Donc, il faut également examiner quelles mesures sont possibles, sont faisables, quelles sont les données qui doivent être prises en compte pour mesurer le déploiement de l'IPv6, quels seront les financements nécessaires et qui sera à même de fournir ce type de financement. Autre question, la méthodologie qui devrait être mise en place afin que des données mesurées par différentes parties puissent ensuite être agrégées et comparées à l'échelle internationale afin qu'on puisse une idée des progrès réalisés. Le CDE et les autres parties impliquées souhaiteraient favoriser la coopération, les échanges, notamment en matière de méthodologie statistique, afin de pouvoir évaluer les progrès réalisés. Alors, tout ceci dépend, bien entendu, justement de cette méthode. Selon les méthodes statistiques utilisées, nous pourrons répondre à différentes questions. Avant de donner la parole à l'orateur suivant, je souhaiterais vous poser une question sur l'analyse des coûts. Une petite idée du budget impliqué? Qu'entendez-vous par analyse des coûts? Vous souhaitez avoir une petite idée de l'enveloppe budgétaire? Dans le rapport, quelque part, il me semble qu'on cite quelques milliards de dollars. Une seule étude a été réalisée par IT International à la demande du ministère du Commerce américain. Il y a quelques chiffres qui sont cités sans précision. Mais il n'y a pas eu de véritable évaluation des coûts. Ce coût, en effet, va dépendre énormément des différentes applications, des systèmes existants, les mises à niveau qui seront nécessaires. Donc, c'est très, très difficile de répondre à cette question. J'adorerais pouvoir le faire, mais malheureusement, ce n'est pas possible. RITS a dit que cette transition vers l'IPv6 devrait se chiffrer autour de 25 milliards de dollars, mais pour les États-Unis exclusivement. Donc, c'est un chiffre tout à fait approximatif. Ray, je voudrais revenir sur deux autres observations que vous avez faites, Karine. Il existe d'ores et déjà des politiques transitoires dans les différentes régions, donc il n'y a là de rien de nouveau. Ce qui change véritablement, c'est la nature de ces politiques. Deuxièmement, en ce qui concerne l'étude sur la pénétration de l'IPv6, nous en avons mené une récemment et nous en avons parlé lors de notre réunion à Denver. Nous allons poursuivre ces travaux. Ces études sur le taux de pénétration se fonde sur la pénétration dans les différentes régions aériennes. Alors, je vous renvoie sur notre site Internet, IPv6 Info, et vous obtiendrez là des détails supplémentaires. Mais nous allons effectivement poursuivre ces études sur la pénétration et nous serions heureux d'accueillir de nouveaux partenaires de par le monde. Alain Durand, je voudrais revenir sur CAST. Tout dépend de la manière dont vous procédez. Si vous procédez à un planning suffisamment à l'avance, à ce moment-là, vous pouvez répercuter les coûts et ce coût peut s'en trouver réduit. Et à ce moment-là, il s'agit finalement d'un coût de formation et non pas un coût lié au remplacement des appareils. On a parlé de 25 milliards de dollars pour les États-Unis. Je ne sais pas honnêtement d'où vient ce chiffre, parce qu'on pourrait aussi bien le diviser par deux ou le multiplier par deux. 20 secondes, d'accord. Oui, je souhaiterais faire une petite observation sur le fait que les gouvernements devraient adopter ces standards rapidement. C'est une bonne idée, mais il faut ne pas oublier que les gouvernements sont également des fournisseurs de contenu pour les citoyens. Et l'enjeu, ce sont les personnes qui gèrent ces services et ils veulent que les clients, les utilisateurs finaux, puissent continuer à travailler et obtenir les mêmes services que ce qu'ils avaient avec les PV4. Et on peut prendre l'exemple du moteur de recherche Google. Il y a eu un refus de le mettre sur ce qu'on appelle la double pile, le dual stack, parce que ça entraînait un ralentissement du débit. La plupart des sites gouvernementaux, le contenu de ces sites vont sans doute être repris dans un nom de domaine IPv6 particulier, ce qui veut dire qu'in fine, l'exposition sera moindre que dans le cas des sites web IPv4. Bien, je propose de passer à l'étude de cas. Je serai moi-même intervenant.
Je suis Izumi Aizu, participant au comité d'utilisateurs, et j'aimerais vous faire part des conclusions du groupe d'études japonais pour ce qui est la transition entre l'IPv4 et l'IPv6 l'année dernière, rapport en avril, publication d'une version anglaise et un résumé. Moi, je vais faire le résumé du résumé. Ici, vous avez les grandes lignes du rapport. Au départ, l'on dit qu'il y a diminution des adresses IPv4 d'ici 2012 et la transition est une action essentielle. Et la comparaison avec d'autres possibilités. Les enjeux, ils ont élaboré un plan d'action. Ils disent que les fournisseurs de services et d'accès doivent élaborer un plan d'action d'ici 2008 pour mise en œuvre d'ici 2010. Il est important pour les utilisateurs d'anticiper le soutien à l'IPv6 dans la mesure où les connexions IPv4 ont limité d'ici 2011. Il est important également que les fournisseurs, les vendeurs, les fabricants et les fournisseurs de technologies ont des réponses afin de soutenir l'ensemble de cette croissance. Ici, vous voyez le panorama de l'influence possible, la diminution de l'espace d'adressage. Il peut se révéler impossible de maintenir l'Internet, sauf si l'on prend des décisions. Et nous dépendons à l'heure actuelle beaucoup d'Internet, donc le collapse serait très grave. Comme je l'ai dit, il y a différentes approches. L'une réattribution des adresses IPv4, il y a des observations faites sur la faisabilité, la continuité des services et l'effet permanent. Et il est en fait la conclusion définitive et essentielle d'assurer la transition vers l'IPv6. Proposition technique pour la coexistence des applications sous IPv4 ou IPv6. Ici, vous voyez la nomenclature que nous connaissons tous, et peut-être qu'il faudra mettre en place un nouveau réseau, traducteur PV4, PV6, plus une application passerelle. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais il faut faire quelque chose pour qu'il y ait compatibilité entre les deux systèmes. Au début, on part du principe qu'il n'y aura pas beaucoup de trafic, mais que ce trafic augmentera de plus en plus. Il y aura de plus en plus d'utilisation IPv6 au fur et à mesure. Ils ont également procédé à une analyse très détaillée. Alors, toute cette présentation sont sur le site web de l'ICANN et sur le site ICANN Paris également. Et eux, ils ont travaillé à partir du PC et tous les équipements périphériques, enregistreurs, etc. Et ils ont analysé les équipements tels que les CPE. Là, il s'agit véritablement du consommateur. Ils ont pris en compte la voix par IP, le streaming et le PIN code. Donc, les différents types d'utilisateurs, ils ont également pris en compte les routeurs, les switches, les fournisseurs d'accès Internet. On prend en compte les mesures de sécurité et ont émis des recommandations sur les logiciels pour sur le NTP. Alors, c'est vrai que nous, utilisateurs finaux, nous ne connaissons pas tout cela et nous ne devons pas en prendre compte, mais ce sont tous les équipements qui permettent à l'Internet de fonctionner, et je pense qu'il devrait être à garantir l'interopérabilité entre les deux réseaux. Ici, la démarcation entre les services du réseau et les utilisateurs finaux. L'on parle de mise en place par les prestataires de services et les utilisateurs. Il faut que toutes les parties prenantes collabore à cette mise en place. Et ici, c'est le plan d'action 5 ans, 2008-2012, et les tâches assignées à chacun des acteurs, réseaux, services, fabricants, outsourcers, utilisateurs, les organisations pertinentes et les gouvernements. Et ils ont défini le rôle du gouvernement dans la mise en place du plan d'action. Il est important que chaque acteur connaisse bien le rôle qu'il doit jouer dans la mise en place de ce plan d'action. Le gouvernement doit publier de façon internationale la politique du Japon pour confirmer ce plan d'action. C'est une des raisons pour laquelle on m'a demandé de faire la présentation ici. Aujourd'hui, aucun pays ne peut travailler seul. La coordination internationale est fondamentale. Comme Karine l'a dit, certaines conclusions de ce rapport ont été reprises dans le rapport de l'OCDE. Publier le développement du PV6, examiner le coût avec les organisations pertinentes, soutenir les programmes de formation afin de dispenser les compétences nécessaires. Voici quelques détails de ce plan d'action. Il faut mettre en place un conseil de la promotion de l'IPVC qui doit être renforcé, reconfiguré. Il s'occupait d'abord de la promotion de l'IPV6 en soi, mais il doit maintenant se charger de l'aspect technique. Ici, vous avez la référence et j'en ai terminé avec mon rapport. Est-ce que vous avez une question qui vous brûle la langue? Alors, tout cela est sur le site. Alors, est-ce que Abdel est là?
The next part, which is the panel, we have Bertrand de la Chapelle.
Donc, nous arrivons à la dernière partie, donc le panel. Bertrand de la Chapelle, du ministère des Affaires étrangères, est là. Pouvez-vous vous asseoir à côté de Jeannette? Merci, Bertrand.
About 5 minutes.
5 minutes.
Thanks, Izumi. It's a great pleasure to be here.
Merci, Izumi. C'est un grand plaisir. Je ne veux pas abuser de votre temps. J'aimerais souligner certains points. D'abord, il est très important que les discussions de ce type aient lieu et qu'elles aient lieu avec toutes les parties prenantes. La transition IPv4-IPv6 est justement un des thèmes qui est difficile d'aborder si chaque catégorie d'acteurs le fait de façon isolée. Chacun à une pièce du puzzle et il faut travailler ensemble. Et la pièce que l'un peut avoir ne colle pas avec les autres pièces, sauf s'il y a ce lien, cette jonction entre ces pièces. Et cette discussion nous permet de comprendre les objectifs, les enjeux, ce que l'on doit mettre en place. Et je crois que c'est le forum idoine pour le faire. Et je vous félicite pour encourager ce type de discussion. Deuxième aspect, vous avez eu l'occasion d'écouter ce qu'a dit le ministre français ce matin. Nous sommes soucieux, je veux dire par là, intéressés, car nous pensons très important que l'attribution du pool restant des adresses IPv4 soit faite de façon équitable et loyale en prenant en compte les besoins des pays en développement ou des pays qui n'ont pas été si bien dotés que nous par le passé. Je n'ai pas, moi, une formule pour définir exactement ce qu'est loyal et équitable. Il faut avoir un objectif commun pour cette période devant nous où nous aurons une période de pénurie accrue. Gérer la pénurie, eh bien, par définition, c'est une question de politique. Et le caractère original de cette question, c'est qu'à l'inverse d'autres aspects, la responsabilité politique est partagée. Elle n'incombe pas uniquement aux autorités publiques, elle est de la responsabilité des opérateurs techniques, des secteurs commerciaux. Elle relève de la responsabilité de chacun afin que nous convergions vers une même vision, un même objectif. Donc, une répartition équitable correspond à un objectif commun. Il nous faut entre nous définir quels sont les meilleurs moyens à mettre en place. Deux derniers points. Je voudrais dire qu'il y a cette notion de coexistence dont Izumi a parlé et qu'il a illustré. Et cette notion de transition harmonieuse est également une très bonne formulation. Et sur ces deux aspects, trouver la bonne formulation des objectifs répond à 90% à notre travail. Si l'objectif est une transition sans heurts régulière, eh bien, c'est une orientation pour tout ce que l'on veut faire. C'est une transition donc harmonieuse, c'est un concept très important et différent. Dernière chose, si nous parlons d'une transition harmonieuse, comment allons-nous la gérer? Et les quelques chiffres, les diagrammes que Izumi nous a montrés, nous indiquent qu'il y a un certain nombre de sous-actions qui doivent être entreprises par différents acteurs. Alors, c'est pas le moment d'entrer dans le détail, mais je voudrais simplement dire que, encore une fois, nous sommes face à une question politique très spécifique. Comment créer un bien commun lorsque toute action individuelle ne vous est pas directement bénéfique? C'est une question d'intérêt public, c'est une question de politique qui relève, je le répète, de la responsabilité de tout un chacun. Mais savoir quel type de mécanique nous pouvons mettre en place pour que tous les acteurs, pas uniquement les utilisateurs, mais les autorités publiques, les gouvernements, les sociétés puissent être encouragés, trouvent une incitation à faire quelque chose qui ne soit pas bénéfique tout de suite, mais qui va être fructueux à long terme. Il ne s'agit pas d'une relation win-win, gagnant-gagnant. Il faut créer de la valeur ensemble pour en avoir un bénéfice commun à l'avenir. Voilà ce que je voulais dire dans le cadre de votre discussion. Merci beaucoup, dit le Président. Nous avons le deuxième orateur de France, de notre pays hôte. Les Français sont excellents en matière de cohabitation. Peut-être pas forcément pour la transition harmonieuse d'une administration à l'autre. Mais, monsieur le représentant de la Comcast, vous avez la parole.
But maybe I would speak in English.
Je suis français, mais je vais parler en anglais. J'aimerais tout d'abord parler de gouvernance dont vient de parler monsieur de la Chapelle. Je crois qu'il est très important de comprendre que le système d'attribution d'adresses est un système extrêmement complexe. Il faut trouver un bon équilibre après de nombreuses années avec la après discussion de la communauté des utilisateurs. Et tout changement de ce modèle risque de déséquilibrer ce système. Donc la continuité dans le changement, c'est quelque chose d'extrêmement important. À Comcast, nous pensons que la continuité de ce modèle de gouvernance Internet avec les RIR, avec les FAI, eh bien, c'est le meilleur auquel nous soyons parvenus. Pour ce qui est du déploiement de l'IPv6, permettez-moi de partager l'expérience au sein de la Comcast au cours des dernières années. La société a pris une décision stratégique en 2005 d'appuyer l'IPv6. Nous souhaitons l'appuyer en deux étapes. D'abord pour utilisation interne et ensuite service à l'adresse de nos clients. À l'heure actuelle, nous sommes en train de déployer la phase 1 et nous réfléchissons à la mise en place de la phase 2. Nous essayons de le faire de la façon la moins coûteuse possible et qui soit faisable au plan architectural. Nous utilisons la technologie pour résoudre des problèmes, pas uniquement pour la technologie elle-même. Nous allons utiliser l'IPv6, mais à quoi cela va servir? Ce n'est pas la peine d'avoir l'IPv6 pour communiquer entre mon portable et mon fixe. Mais lorsqu'il y a une pénurie en matière d'adressage, l'utilisation du protocole IPv6 est essentielle. Lorsque nous l'avons déployé, ce n'était pas parce que nous avions un problème de réseau, nous avons pu résoudre de façon facile, mais il s'agissait de problèmes de services, de problèmes applicatifs. Nous avons pris en compte qu'il y avait beaucoup de dépendances à la fois internes et externes. Ça peut être une dépendance par rapport à un logiciel ou par rapport à un service que nous externalisions auprès d'une autre société. Et gérer toute cette dépendance représente un enjeu. Vous savez, souvent, je parle à une partie extérieure et ils disent, nous avons cette exigence IPv6, nous avons cette nouvelle caractéristique. Eh bien, la réponse est, vous êtes le seul à nous le demander. Moi, j'ai d'autres demandes, d'autres utilisateurs pour le 4, sauf si vous payez, nous ne le ferons pas. Et c'est ce qu'il a fallu changer, c'est ce que nous avons changé dans un certain nombre de secteurs, le DHAP, nous avons travaillé avec la communauté des utilisateurs et produits pour être sûr de trouver des solutions. Donc, l'engagement des vendeurs, et je ne parle pas uniquement de logiciels, mais de services, est essentiel. C'est quelque chose de clé, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire seul. La coopération avec d'autres prestataires de services, avec le reste des secteurs d'activité, de toute la chaîne d'alimentation en matière de services, de produits, eh bien, cette coopération entre tous les partenaires est importante. Maintenant, pour ce qui est des services, j'aimerais vous projeter une image. Vous savez, je suis français, je pense qu'une image vaut des milliers de mots.
Let's see if this one works. Yeah. There it is. All right. So this is a diagram that essentially shows what the service.
Donc un diagramme qui montre ce qu'un fournisseur de services peut faire. Alors, compte tenu de la diminution de l'IPv4 il y a quelques années, voilà ce qu'il peut faire avec les clients qui sont connectés au réseau et qui utilisent Internet. En orange, IPv4, en bleu, IPv6, tout au moins vous avez une anticipation de ce que peut être l'IPv6. Et le problème que nous avons, c'est que les gens n'ont pas toujours l'ordinateur dernier cri. Ils ont aussi des vieux ordinateurs qui ne peuvent pas travailler avec IPv6. Ils ont toujours la machine ancienne qui travaille très bien sous la version Windows ancienne et elle peut encore fonctionner pendant de nombreuses années. Et dire que nous allons fournir un service IPv6, ce n'est pas forcément une solution. Il faut gérer l'héritage, il faut gérer le parc existant et gérer toutes les interfaces. Autre aspect même si nous avons des nouvelles machines IPv6, que nous leur fournissons des services, eh bien, les gens s'occupent du contenu. Et le contenu, à l'heure actuelle, eh bien, il passe sur IPv4. Pardon. Il faudra des années et des années avant de passer le contenu d'IPv4 à IPv6. Et nous, les prestataires de services, il va falloir trouver des solutions intérimaires qui nous permettront de faire la passerelle, le pont entre ces deux versions. Et l'autre problème technique, c'est qu'ils ne sont pas compatibles. Donc, on est en train d'essayer de développer de nouvelles technologies pour que l'IPv6 soit compatible avec l'IPv4. Nous le faisons en collaboration avec d'autres prestataires de services, d'autres vendeurs. Et c'est quelque chose que nous souhaitons standardiser. Et ceci va être très important pour permettre le déploiement de l'IPv6 et lui permettre de converser avec l'IPv4. Merci beaucoup. Eh bien, vous nous ferez part la prochaine fois des progrès en matière de compatibilité. Autre orateur qui pendant très longtemps était de l'ICANN, McFadden de British Telecom.
Thanks.
Je vous remercie. Je m'appelle McFadden, je travaille à British Telecom. Avant d'entamer cette présentation, je dirais que les opinions ont été tellement brillants en vous présentant les défis et les solutions possibles. Je voudrais vous dire que nous avons à BT un service IPv6 disponible et à l'heure actuelle, les demandes de ce service sont assez, pour ce service sont assez limitées. Je veux dire qu'on n'est pas surchargé. Ceci étant dit, je souhaiterais partager avec vous quelques réflexions que nous menons afin de voir également ce qui est nécessaire pour que l'IPv6 se fonctionne. Je n'ai pas l'intention de répéter ce qui a été dit, plutôt essayer de partager avec vous une perspective légèrement différente. En me plaçant du point de vue du FAI. Alors, on peut se poser la question de savoir pourquoi les FAI ne déploient pas d'IPv6. En fait, les FAI déploient très, très souvent dans leur réseau l'IPv6. Mais ce qui vous a été dit et ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas de véritable demande en la matière. Ce qui veut dire que, comme on le sait, la demande de la clientèle est motrice. Un certain nombre d'entreprises proposent ce service IPv6, bon, peut-être pas au foyer, aux individus, mais en tous les cas, aux entreprises et à leur réseau. Les FAI ne sont pas tous les mêmes. On utilise ce sigle ici, et on a parfois l'impression qu'il s'agit d'une seule et même entité unique. Or, il y a de grosses différences de fournisseurs ou d'un fournisseur à l'autre. Et lorsque l'on parle de ce déploiement d'IPv6, eh bien, ce déploiement peut être assuré soit par de petits fournisseurs régionaux ou au contraire par des intervenants planétaires. Donc, je crois qu'il est très important de savoir de qui on parle et de qui on parle et par qui l'accès à Internet est fourni. Ce qui est également important et ce qui est intéressant, c'est que dans de nombreuses régions, on s'efforce de susciter la demande sur la base de principes non commerciaux. Et je veux dire que le rapport de l'OCDE est important. Les gouvernements essayent de susciter la demande en se dégageant de la dynamique des marchés. Les orateurs qui m'ont précédé ont dit qu'il va falloir que tout le monde participe à ce travail collectif afin d'essayer de trouver une solution puisque tout le monde est concerné. Dans mes deux derniers plans, je souhaiterais parler des problèmes et des défis auxquels nous nous trouvons confrontés. À British Telecom, lorsque nous parlons d'IPv6, nous parlons de PCEA, de production, contenu et application. Alors, on a déjà parlé des couches 7 et 8. C'est exactement ce dont je parle ici. L'un des problèmes auxquels se trouvent confrontés les camps FAI, c'est que les outils nécessaires pour mettre en œuvre le protocole IPVC ne sont pas suffisamment mûrs. En d'autres termes, ils ne sont pas prêts pour être utilisés de manière généralisée. Nous avons de bons contacts avec les revendeurs, avec les fournisseurs, et qui sont d'ailleurs tout à fait disponible et utile, mais je dois dire que pour le moment, la technologie n'est pas arrivée à un degré de maturité suffisante pour pouvoir servir 40 millions d'utilisateurs. Donc là, on a vraiment un problème de maturité dans le cadre du protocole IPv6. J'en viens maintenant au contenu. Ma mère s'attend à trouver le contenu qu'elle recherche indépendamment de la pile de protocoles utilisée. Ça a été dit, les utilisateurs finaux n'ont pas à devoir se préoccuper de la manière dont les choses se passent derrière l'écran. Je peux vous dire, pour reprendre l'exemple de ma mère, que c'est son cas. Passons à la 78 ans. Je passe maintenant au A, application. L'application non plus n'a pas besoin de savoir comment les paquets circulent en deçà de leur couche. Alors, on voit qu'il y a des applications pour lesquelles cela ne pose pas de problème, mais ce n'est pas le cas de toutes les applications. Et là encore, c'est une question de maturité, de développement. Là encore, les développeurs doivent travailler en coopération, en collaboration avec les fournisseurs de contenu. Je le répète, je ne veux pas que ma pauvre maman ait besoin de se préoccuper du type de protocole qu'elle utilise. Merci. J'ai encore 5 minutes. Alors, Redcote a été interrompu, moi, on m'a carrément coupé la parole. Donc, ça va être donné quand même un petit préavis d'une minute, si je me souviens bien. Ce qui est bien d'intervenir en dernier, c'est que je n'ai pas besoin de répéter ce qui a déjà été dit. Mais nous travaillons donc ensemble afin d'essayer de résoudre les problèmes de déploiement pour l'utilisateur. Je le répète, il y a beaucoup de fournisseurs d'accès à Internet très différents. Les problèmes qui se posent ne sont pas toujours les mêmes. Il y a des problèmes qui sont propres à l'IPv6, d'autres qui sont en fait liés également à l'IPv4. En tant que grand FAI, je dirais qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font au sein de notre organisation en matière de planification, en matière de conception d'architecture, en matière de conception de services afin d'adapter le tout à l'IPv6. Et ces travaux sont en partie liés à la demande de la clientèle. Mais c'est également lié à nos exigences d'infrastructure interne. Ça n'a pas été dit jusqu'à maintenant, mais nous avons besoin sur le plan interne également de l'IPv6. Alors la question est de savoir comment répondre aux besoins opérationnels, comment résoudre ou répondre, satisfaire cette demande. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Il faut absolument que les revendeurs s'impliquent également. Ce partenariat est absolument essentiel en tant que FAI, en tant que FAI de grande taille. Nous sommes convaincus que nous ne pouvons pas agir seuls. Nous voulons travailler avec les gens qui s'occupent de l'application, du commerce de détail, etc. En fait, avec toutes les parties prenantes. Merci. Merci, Marc. Et pour vous prouver que les AI ne sont pas tous pareils, nous allons donner la parole à un représentant de fournisseurs d'accès à Internet parisien. Je vais donner la parole à Christian Japonais. Il est directeur de la stratégie département recherche et développement de France Télécom. Alors, nous devions normalement terminer cette réunion à 11h30, mais je viens d'apprendre que nous avions 10 minutes, voire un quart d'heure de plus à notre disposition. Merci, Tsumi.
difficile d'intervenir en quatrième position. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit jusqu'à présent. IPv6, c'est une longue histoire. D'ores et déjà, au sein de France Télécom, en effet, nous avons commencé à évaluer les premiers routeurs disponibles sur un plan commercial en 1995. La motivation était double à l'époque. Il s'agissait d'une part d'acquérir le savoir-faire et bien entendu également être prêt le moment venu pour déployer une capacité IPv6. Tenant compte, bien entendu, des prévisions d'épuisement des adresses IPv4. Nous avons un programme en trois temps qui a été lancé. Vous avez d'une part l'introduction, ensuite la migration, puis la production. Il s'agit bien entendu de préserver dans toute la mesure du possible les intérêts de nos clients finaux. En d'autres termes, quel que soit le service auquel ils ont souscrit, ils auront la qualité, la fiabilité et la sécurité auxquelles ils sont en droit d'attendre, et ceci indépendamment du protocole sur lequel tout ceci fonctionne. Pour nous, IPv6, c'est non seulement une solution à la question de l'adressage, mais nous espérons et nous sommes même convaincus que nous pourrons ainsi avoir un Internet plus rapide et plus fiable et plus sûr. Alain a déjà parlé de différents problèmes qui se posent. Alors, pour nous, il y a trois grandes questions techniques. D'une part, l'évolution de nos propres passerelles, afin d'être sûr que les personnes qui se connecteront à Internet seront protégées d'attaques néfastes. En effet, il y aura beaucoup, beaucoup plus d'adresses IPv6. Le service de gestion des adresses individuelles est essentiel. Il s'agit en outre de s'assurer à ce que la communication puisse se faire entre les autres IPv4 et IPv6. Et là, je fais suite aux présentations d'Alain et Marc. Et puis, troisième question pour nous, l'impact de l'introduction de cette version 6 sur les systèmes d'information, étant donné les infrastructures de gestion qui doivent être adaptées et voire introduites après la mise en place de l'IPv6. Voilà, en résumé, ce que je souhaitais vous dire à titre de complément des interventions précédentes. Nous pouvons donc ouvrir la session de questions et de réponses. Merci de cette intervention concise. Au nom de France Télécom, j'imagine qu'il y a un grand nombre de spécialistes dans cette pièce, mais également des spécialistes de politique en la matière, même s'ils ne se sont pas des experts sur les questions techniques. Je vais donc vous donner la parole, mais avant d'ouvrir le débat, je crois que la grande question, c'est celle des synergies. Comment mettre en place ces synergies au sein de la communauté ICANN, bien entendu, mais éventuellement également à l'extérieur avec d'autres, à voir qui sont ces autres. Il y a également des principes non commerciaux qui sont intéressants. Il n'y a pas d'incitation commerciale, pas immédiate, sinon il ne serait pas nécessaire de se réunir. Il suffirait de laisser le marché trancher et les consommateurs payer. Donc, il s'agit de voir comment tenir compte des questions de sécurité également. Je ne sais pas qui souhaite intervenir sur l'un ou l'autre de ces points. Nous avons ici un micro-baladeur de manière à ce que les interprètes puissent vous entendre et également pour que les gens à distance, dans le cadre de cette téléconférence, puissent également vous suivre. Bien, nous allons pouvoir lever la séance. Allez, lancez-vous. Leslie, puis Patrick. En écoutant certains des intervenants ce matin, je me suis dit que certes, nous étions tous d'accord sur l'objectif final, à savoir le développement de l'IPv6, mais il faut se souvenir également qu'il n'est pas possible de mettre en place un programme idéal pour y parvenir qui s'appliquerait à tous. Ce n'est pas quelque chose qui s'ordonne.
La spécificité d'Internet, c'est que voilà, les choses évoluent. Certains aspects vont prendre beaucoup plus de temps que nous l'aurions espéré, et d'autres, au contraire, qui vont intervenir plus rapidement. Donc, il est très, très difficile de faire des prévisions. Pour illustrer mes propos, il y a 20 ans, la question en matière d'hypertexte était comment les livres, les publications, les pouvoirs être transformés sous forme électronique. Et puis, Internet est arrivé, la toile également, et ce n'était plus à l'ordre du jour. Alors, pour ce qui est du marché des marchés privés, en fait, des individus, des foyers. On est ici dans le quartier de Montparnasse. On a l'impression, en fait, qu'on est à Roland-Garros, que les gens se renvoient la balle. Il n'y a pas de demande. Ben oui, parce qu'il n'y a pas d'offre. Alors, avant de venir à cette réunion, j'ai envoyé un mail, un courriel au service de presse de mon fabricant de CP en disant nous avons cette réunion à Paris. Si vous avez quelque chose à dire, en tant que grand fabricant européen, faites-le-moi savoir. Venez. Je n'ai même pas eu d'accusé de réception. La dernière fois que j'ai fait appel à eux, la seule chose qu'ils m'ont dit, c'est « Ben, désolé, nous prenons compte des PV6. » Parce que les FAI ne fournissent pas les PV6. Donc, in fine, comment générer une demande suffisante afin que les fabricants, les fournisseurs d'accès et les fournisseurs de services puissent apporter conjointement ce service? Je voudrais revenir sur le commentaire de Leslie. M'entendez? J'étais à la réunion Nanog qui s'est tenue il y a un mois à New York. L'IPv6 est avéré être le seul mécanisme de connectivité. Et je peux vous dire, pendant une heure, en fait, nous avons été déconnectés. Surtout lorsque les opérateurs n'arrivent pas à faire fonctionner ce protocole. Donc, je crois que difficile de s'attendre à ce qu'il y ait des changements importants au cours des deux prochaines années. Nous entendons très mal l'orateur, malheureusement. Il faut veiller à ce qu'il y ait une véritable évolution, une voie qui soit tracée pour cette migration entre les PV4 et les PV6. Et il faut qu'il y ait une compatibilité amont. Sinon, nous allons, comme Malkaf l'a dit, la valeur d'un réseau et la valeur au carré du nombre d'utilisateurs. Donc, vous avez cette valeur, mais nous n'avons pratiquement pas d'utilisateurs d'IPv6, ce qui veut dire que le tout a très peu de valeur. Donc, pour rompre ce cercle vicieux, il faut qu'il y ait compatibilité. Il existe deux réseaux Wi-Fi, l'un qui est IPv4 et l'autre est IPv6, ici. Et je souhaiterais savoir combien d'entre vous être relié à IPv6 par Wi-Fi ici. Et combien d'entre vous avez réussi à vous connecter? Moi, je dois dire que j'ai essayé de me connecter. La connectivité était très mauvaise. Il faut que vous ayez l'adresse IP du serveur DNS. Autrement, ça ne marche pas. Dans une industrie, dans un secteur déréglementé comme le nôtre, nous avons des faillites, la chaîne d'approvisionnement, la chaîne logistique ne fonctionne pas. Alors, il y a un risque d'échec. On ne peut pas l'ignorer. Il ne s'agit pas là d'une transition inévitable. je crois que on n'avait pas prévu d'en être là à 2 ans de la date limite. La dernière fois que nous sommes trouvés dans cette situation, devinez ce qui s'est passé. Aujourd'hui, la seule chose qui fonctionne sur Internet se fait via NAT, parce que c'est indispensable. Donc, à partir du moment où on se rend compte que l'échec est possible, NAPS ne le tolérera pas. Et on va se retrouver confronté à des applications plus complexes qui essaieront de passer par des couches où la connectivité est plus difficile. Donc, il faut voir que le résultat n'est pas forcément prédéterminé. Il faut se placer dans le cadre commercial. Que faire en cas d'échec? Que faisons-nous à ce moment-là en tant qu'entreprise? Jeff Houston, pour ceux d'entre vous qui ne le connaissaient pas, scientifique chef. Et c'est lui, justement, qui fait partie de ceux qui mettent des prévisions en matière de pénurie d'adresses. Merci de ce dernier commentaire. Je crois que nous abordons là une distinction très intéressante entre, d'une part, la planification et, d'autre part, la coordination. Si je ne m'abuse, la coordination, c'est vraiment là la mission d'ICANN. La coordination est une première étape. Il s'agit de rassembler les différentes parties prenantes afin qu'ils tiennent compte de l'ensemble des facteurs, y compris le risque d'échec, mais également qu'il y a des solutions possibles. Il y a sans doute des mesures qui peuvent être prises de manière à assurer une compatibilité qui n'avait pas été prise en compte au début. Vous savez, c'est dual stack, etc. Tout ça, ça fait partie du tableau. Mais l'élément essentiel que je retiens des interventions que nous avons entendues, c'est le fait qu'il faut que les choses soient transparentes pour les utilisateurs. En d'autres termes, les utilisateurs ne doivent pas avoir à se soucier du protocole qu'ils utilisent. Pour la plupart des utilisateurs, ce sera de plus en plus comme ça. Ce sera une connexion, comme toute autre connexion, un appareil comme un autre. C'est comme appuyer sur le commutateur électrique. Cet élément clé, la coordination, fait partie de notre objectif. Et c'est pourquoi cette transition sans accroc est essentielle. Et c'est ça que nous devons viser. Nous ne savons pas exactement comment les choses vont se passer. Il va y avoir de nombreux appels. Mais si l'on tient compte du problème qui est en train d'apparaître, et étant donné qu'il nous faut résoudre ensemble ce problème, s'il doit se faire dans le cadre de l'ICANN, toutes les organisations qui doivent prendre des décisions de manière autonome, seules, se rendent compte qu'elles font partie, qu'elles apportent une partie de la solution. Et la caractéristique de systèmes complexes n'est pas tant la déréglementation, la dérégulation. Ce sont donc des systèmes dynamiques complexes. Les comportements qui émergent existent, mais nous avons des protocoles qui permettent d'évoluer. Je crois que notre comportement doit fonctionner de la même manière, c'est-à-dire que les comportements individuels doivent être encouragés de manière à ce que la situation nouvelle permette de résoudre les problèmes qui se posent, et ceci en toute transparence pour l'utilisateur. Donc, tout ceci fait véritablement partie de la panoplie d'outils, d'instruments que nous utilisons. Nous avons encore 2 demandes de parole. Nous avons beaucoup parlé de français, d'anglais, d'américain. Peut-être que nous pourrions entendre d'intervenants d'autres parties du monde. Je viens justement du reste du monde et je suis un utilisateur d'Internet. Je viens d'Hawaï et se trouve juste que je suis en France. Je crois qu'il y a quelque chose de très important. L'utilisateur final est au cœur de notre réunion, C'est pourquoi je souhaiterais vous présenter le point de vue d'un tel utilisateur. Je suis pour l'IPv6 et je le dis à titre liminaire de manière à éviter toute mauvaise interprétation de ce que je vais dire. Voilà 10 ans que j'essaye de mettre en œuvre le déploiement de l'IPv6. J'incite tout à chacun à le faire. Mais en tant qu'utilisateur final, tous les jours, je dois me battre avec l'IPv6. Et la comparaison avec IPv4 s'impose. Les personnes chargées du déploiement de l'IPv6 doivent veiller à ce qu'il n'y ait pas de dégradation du service par rapport à ce que l'IPv4 peut proposer. Aujourd'hui, pour l'utilisateur final qui essaye de jouer avec l'IPv6, à partir du moment où il se heurte à des difficultés, il se rend sur les forums. Et la première réponse qu'on leur apporte, c'est de supprimer l'IPv6 du fait de la mauvaise qualité du réseau. Donc, en tant que déployeur de l'IPv6, nous avons là une grande responsabilité. Il ne faut pas que l'IPv6 soit un citoyen de seconde zone. L'IPv6 doit être déployé à même niveau de qualité que l'IPv4. Sinon, il faut une petite mise en garde en disant que c'est en cours d'expérimentation. Parce que sinon, si la qualité n'est pas la même, c'est fini. Vous êtes mort. Et les utilisateurs finaux ne passeront pas à l'IPv6. Nous avons besoin d'utilisateurs comme vous. Jeannette. Merci. Jeannette Hoffman, London School of Economics. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Leslie. Oui, nous savons quel est l'objectif, ce que nous voulons, mais par contre, la voie n'est pas tracée pour y parvenir. Je me demande s'il n'y a pas quand même une solution pour faire marcher Internet, et si cette solution n'est pas bien déterminée. Ce qui me frappe depuis déjà un certain temps, c'est que toutes les tentatives de coordination entre le monde des entreprises et des utilisateurs et des associations sont limités et ne marchent pas très bien. Est-ce que la capacité d'autogouvernance d'Internet est si faible qu'on ne puisse rien changer? Ces tentatives à partir de RIR sont intervenues très tard. Pourquoi ça ne s'est pas fait il y a 10 ans alors que IPv6 pouvait d'ores et déjà être déployé? Que pour le moment, on ne voit pas bien pourquoi les FAI ne peuvent fournir l'IPv6 et les difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui. On les connaissait il y a 10 ans. Il n'existe pas d'application spécifique à l'IPv6. Ceci était connu d'ores et déjà à partir du moment où l'IPv6 a acquis de nouvelles facilités dont il ne disposait pas au début. Bien. Alors, Franck, et puis nous entendrons ensuite les réponses. Je crois que ce qui est intéressant, c'est de savoir. Je suis français, je viens des îles Pacifiques, je m'exprimerai en anglais. Vous m'entendez? Oui. En tous les cas, les interprètes vous entendent. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est la fin de l'IPv4. Et de savoir à partir du moment où il n'y a plus d'adresse. Si vous regardez les recommandations de l'UE et de l'OCDE, elles nous disent si vous ne passez pas à l'IPv6, vous allez rater les opportunités que présente la nouvelle économie. En d'autres termes, à quel moment allons-nous rater ces possibilités? À quel moment faut-il véritablement passer à l'IPv6? Je crois qu'il faudrait qu'on ait une date butoir, date à laquelle il faut absolument être sur les PV6, utiliser les PV6. En effet, j'imagine qu'à partir d'une certaine date, si on n'utilise pas les PV6, on ne pourra plus faire de business. Thomas.
Is this on? Just a couple of comments.
Quelques observations. J'imagine que tout ceci revient à la demande. La demande, c'est cela qui va tout régler. En l'absence de demande, les choses vont traîner, voire ne pas marcher. La question n'est pas tant la coordination entre les différentes parties prenantes. Le problème, c'est que de manière générale, il n'y a pas d'intérêt suffisant. Si la demande était là, s'il y avait une pression de la part des clients, nous aurions des cas concrets et on avancerait. Je crois que ceci a été dit. Le problème aujourd'hui n'est pas suffisamment aigu. Il me semble qu'il va falloir attendre 2 ou 3 ans pour toucher le fond et à ce moment-là, on se dira « Ah ben oui, là, il faut vraiment agir ». Mais je ne sais pas si on y parviendra effectivement. Il faut attendre. Nous souhaiterions que les gens agissent différemment, que les déploiements sont mis en place. Mais il s'agit là simplement de desiderata. Voilà 15 ans qu'on procède de cette manière. On le savait dès le début qu'il n'y avait pas de compatibilité. À mon avis, il s'agit là d'une décision liée à la conception, décision conceptuelle. Cette compatibilité, à mon signifie que la nouvelle version va pouvoir prendre en charge l'ancienne version. Et c'est exactement ce que sont ces double piles, ces dual stack. Merci. Et conseil d'administration d'ICANN, il s'occupe de la liaison avec l'IETF. Il nous reste encore 2 demandes d'intervention. Et ensuite, nous conclurons. Merci. Je viens de la Commission de l'Union africaine. Je crois que la question de la migration de l'IPv4 à l'IPv6 est une question effectivement liée à la demande, à la prise de conscience de cette demande. Je voudrais faire une analogie. Nous avons eu la question de l'an 2000. Et là, il y avait une vraie sensibilisation. On savait quel était le problème et ce qu'il fallait faire pour le résoudre. On a parlé beaucoup des années 2010 et 2011 pour ce qui est de la migration du IPv4 à IPv6, d'où ma question. Est-ce que nous allons avoir un grand Big Bang là, de l'an 2010 ou 2011 comme nous avons eu en l'an 2000? Effectivement, c'est une question qui a d'ores et déjà posée. Ma réponse serait la suivante. C'est exactement comme en l'an 2000, dans le sens qu'il faut passer en revue toutes les applications, il faut regarder tous les détails. Par contre, il n'y a pas de... En d'autres termes, vous n'allez pas vous réveiller un beau matin et, ce sera, et tout va se mettre à fonctionner. Il n'y aura pas de différence par rapport à la veille et l'avant-veille. Vous allez avoir en fait une progression des coûts, mais il est difficile de savoir à quel moment la bascule va se faire. Nous essayons de mettre à niveau des infrastructures qui sont utilisées par 1,2 milliard de personnes. C'est quand même difficile de procéder à des modifications qui vont toucher tant d'infrastructures sous-jacentes. Très directement, mais très brièvement. Pour revenir sur la question de l'an 2000, je crois que les enseignements que l'on peut tirer, c'est qu'il y a eu là un effort de planification concertée et qui a permis que tout se déroule sans problème. Je viens du Kenya. Je fais partie des personnes impliquées dans le déploiement de l'IPv6 en Afrique et plus précisément dans mon pays. Je dirais que l'un des défis principaux auxquels nous nous trouvons confrontés en matière de déploiement, c'est qu'on ne peut pas avoir d'IPv6 natif. Et si nous voulons déployer cet IPv6, il y a beaucoup d'activités en cours de la part des gouvernements, par exemple. Les gouvernements insistent pour qu'on déploie l'IPv6, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses en cours. suite aux activités aériennes. Mais une fois que c'est lancé, on peut procéder à des échanges d'opérateurs. Mais le problème, c'est que les membres ne peuvent pas avoir d'IPv6 natif dans la région. Et les principaux fournisseurs sont soit en Europe, soit aux États-Unis, et la fournisseur n'est pas un service natif. Il n'y a pas de motivation financière, d'ailleurs. D'où ma question. Bon, c'est vrai, il y a peu de trafic en Afrique. Ce trafic est insuffisant pour permettre une viabilité financière. Mais si nous avons véritablement, ou si nous voulons vraiment aller de l'avant, que faut-il faire pour que ce soit possible? En effet, l'IPv6 arrive en Afrique. Ce sera le cas d'ici 12 à 18 mois, mais nous avons besoin d'aide pour...
Qui veut répondre rapidement à cette question? Ou y a-t-il d'autres questions corollaires? Madame, vous avez la parole. Je voudrais faire travailler les interprètes.
Yeah, I'm going to speak in French.
Je vais parler en français.
Je n'aurais pas beaucoup à dire puisque mon collègue du Kenya a déjà mis le doigt sur le problème. Puisque nous sommes tous d'accord que le déploiement de IPv6 dépend de la demande, nous savons qu'en Afrique, il n'y a pas beaucoup de trafic et que nous sommes loin d'épuiser les adresses sur IPv4. On peut se poser la question, pourquoi l'Afrique va se mettre à dépenser de l'argent, à faire de l'investissement pour se préparer pour IPv6? C'est pour des raisons d'être au diapason, de se préparer à cette mondialisation qui demande à ce que tout le monde se mette au même niveau. Et comme j'ai eu à le dire hier, c'est dommage, et c'est peut-être vrai aussi que mon collègue vient de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour l'Afrique, qu'est-ce qu'on peut faire, mais je pense que c'est à nous, Africains, d'essayer de faire nous-mêmes. Nous participons à ces séminaires pour peut-être savoir ce qui se passe dans les autres pays, savoir comment ils le font. Mais aujourd'hui, la demande ne peut pas être très forte dans la mesure où les Africains ne peuvent pas tirer de profit, notamment le secteur privé africain ne peut pas vraiment tirer profit des services qu'ils vont offrir puisque les utilisateurs finaux n'en trouvent pas la nécessité. Si la demande n'est pas là, pourquoi on va s'investir pour cela? Et c'est encore un gâteau, un morceau pour le secteur privé international et étranger.
Like, merci beaucoup. For those like me,
ceux comme moi qui n'avaient pas les écouteurs et qui n'ont pas pu suivre la traduction, Alain va traduire rapidement. En fait, si j'ai bien compris, c'était pourquoi l'Afrique investirait dans la technologie alors que le trafic est très faible et que la demande n'existe pas. J'essaie ici de résumer très rapidement ce que a dit madame. Y a-t-il quelqu'un qui ose répondre ou s'agit-il d'un enjeu commun? Y a-t-il quelqu'un d'Afrinique? Dernier commentaire, plus de questions. Jeannette. Une question à laquelle je n'ai pas répondu. On m'a dit que certains avaient failli pense que les utilisateurs ne comprennent que l'IPv4. Je trouve ça assez surprenant et je me demande si les FAI ne doivent pas coordonner afin que effectivement les utilisateurs finaux deviennent prêts à accepter IPv6. Je crois que la vérité, c'est pire que ça. Hein? Les gens ne le connaissent pas. Vous savez, à l'heure actuelle, il est difficile de trouver des CP qui soutiennent IPv6. Pour qu'ensuite on puisse la porter au client.
OK. Susan.
Hi, yeah, I'm Suzanne Wolf, and at the moment I'm...
depuis DSC, nous développons des logiciels, des gestionnaires d'infrastructures. Nous avons beaucoup travaillé sur le DHCP. Ce n'est pas quelque chose qui est largement répandu. Comcast nous a financé pour réaliser ce travail. C'est vrai qu'ils ont dit qu'ils ont besoin de vendre, que le vendeur le fasse. Il faudrait qu'il y ait davantage de gens comme moi qui puissent dire nous avons besoin de cette capacité afin qu'elle soit ensuite mise en place. Mais vous savez, il y a tout l'aspect spécification, planification, engagement, etc. Ce que je dis, c'est que cela marche, mais très lentement. Le silence, Isaac. La base, c'est que c'est la demande qui va pousser le marché. Je suis heureux de dire que pour des raisons internes, certaines sociétés l'avaient mise en place. Et pour l'Afrique, si vous ne vous appuyez que sur la base consommateur, ça ne fonctionnera pas. Thomas. Lorsque j'ai parlé de demande, il ne s'agit pas des utilisateurs finaux, mais si vous voyez le vendeur qui fait le boîtier, vous lui demandez de mettre de l'IPv6, il va vous demander combien cela coûte, et 25 cents par routeur pour ajouter cette fonctionnalité. Donc, et je veux dire, pourquoi je vais payer pour cela? Il faut que l'on puisse faire du business pour chaque niveau pour qu'il fasse l'investissement. Alors, vous pouvez poursuivre la discussion durant votre déjeuner avec vos collègues ou vos amis. Je remercie tous les orateurs qui sont intervenus, certains à très court préavis. Notre président, il y a une semaine, a rédigé un article sur cette question. Et je crois que sa conclusion est tout à fait pertinente. Une organisation seule, aucun gouvernement seul est responsable du déploiement complet de l'IPv6, une coopération entre nombreux partenaires et acteurs qui permettent à l'Internet de fonctionner en tant qu'entité mondiale. Voici la tâche qui nous attend. Merci beaucoup.
The presentation will be placed on the ICANN Paris meeting presentation website as well as
La présentation sera mise sur le site ICANN de Paris et le site général. Si vous voulez vraiment le savoir, donnez-moi votre carte avec votre adresse email et je vous enverrai un email.
Now the internet is not